Donc il y a une tension entre théologie pastorale. On va traiter ça en deux points. D'abord, la portée ecclésiale de l'initiation chrétienne, où il sera question de, où il sera question de confirmation. Et moi, je reprendrai quelques points sur la tension, non pas comment la résoudre, mais voilà, quelques suggestions, enfin, quelques points suggestifs plutôt que des suggestions.
Oui, la portée ecclésiale de l'initiation chrétienne, donc du coup, il faut penser toujours au baptême, confirmation, eucharistie, en pensant que l'eucharistie, qui est le sommet de l'initiation, incorpore dans la vie ecclésiale et dans le corps ecclésial. En vérité, si on pense à saint Augustin, pour Augustin, l'eucharistie, c'est le pain et le vin sur l'autel, était la communauté chrétienne. Augustin dit ceci dans une prédication. Ce que vous voyez sur l'autel, c'est vous. Donc, vous voyez, si on pense à cette Eucharistie comme étant l'aboutissement de l'initiation, en vérité, l'Eucharistie dit, vous les néophytes, vous êtes l'Église. Vous êtes le Christ qui est le corps ecclésial. Mais généralement, sur ces questions de baptême et confirmation, on entend deux affirmations traditionnelles qui sont celles-ci, je les note. La première est de dire, la confirmation n'ajoute rien à ce qui serait donné au baptême, et donc le poids théologique repose sur le baptême. La mission est baptismale, ça y est. L'autre affirmation est celle-ci, la confirmation est à comprendre dans son rapport à l'Esprit-Saint comme agent premier de la sainteté de l'Église, de sa communion, et comme l'agent de la mission. C'est l'Esprit Saint qui pousse à la mission. D'où une réflexion sur qu'est-ce que c'est cette marque de l'Esprit ? Est-ce que c'est que la confirmation qui la donne ? Est-ce que ce sont les sacrements de l'initiation qui la donne ? Effectivement, l'objectif le plus fondamental de la confirmation est celui de authentifier l'ecclésialité propre du baptême, par la marque de l'Esprit-Saint. Marque qui est donc réservée au ministère de l'Église, représenté par l'évêque, qui lui, il délègue cette charge à d'autres dans le partage des ministères dans une Église locale. C'est sur ce point que le rôle de l'évêque est important en tant qu'il incarne et qu'il est le porteur de quatre notes de l'Église, celles que nous récitons dans le credo, hein, une, sainte, catholique, apostolique, et en ce sens, il est habilité à imposer la marque du Saint-Esprit. Alors, remarquons que la parole qui accompagne le geste de la confirmation est « reçoit la marque, le don de Dieu, la marque de l'Esprit », et non pas « reçoit l'Esprit-Saint ». Oui, vous entendez bien la différence. Ce n'est pas seulement un tampon juridique, mais ça a une valeur sacramentelle qui est hautement ecclésiale. Hautement ecclésiale. Mais la confirmation, dont le geste de la chrismation et l'imposition des mains constituent le moment symptomatique, achève le baptême. Achève le baptême. Il ne comble pas ce qui manquerait au baptême, mais déploie ce qu'on peut appeler la pente pneumatologique, la dimension pneumatologique du baptême. Le baptême a déjà une dimension pneumatologique liée à l'Esprit-Saint. Et la confirmation le déploie. Et donc, cette pente pneumatologique, cette dimension pneumatologique, a elle-même deux dimensions. Une dimension ecclésiale, dimension de communion, dimension de mission, et une dimension plus personnelle, de sainteté personnelle, dimension spirituelle liée aux fruits de l'Esprit. Et donc on peut faire jouer une analogie entre ce qui arrive au Christ et ce qui arrive à chaque chrétien. un grand évêque de Jérusalem, pour commenter le moment de l'onction, de la chrismation, disait par cette onction, vous êtes devenus des Christ. Il joue sur le mot Christos, chrisma, tout ce qui est. Voilà. Donc, c'est ça le sens de la chrismation. Donc, effectivement, ceux qui arrivent au Christ arrivent aussi à chaque chrétien. En ce qui concerne le corps personnel du Christ, la Pentecôte n'ajoute rien à Pâques, n'est-ce pas? Mais elle vient déployer, par le don de l'Esprit, les fruits ou la portée de la Pâque du Christ pour l'humanité en donnant naissance à l'Église. De même, de la même manière, tout chrétien, pour tout chrétien, la confirmation n'ajoute rien au baptême, mais elle vient déployer dans la vie de celle ou celui qui la reçoit le don de l'Esprit reçu dans l'eau du baptême. D'où une expression qui me semble intéressante, qui pourrait nous faire réfléchir, nous sommes baptisés dans l'eau et dans le Saint-Crème. En pensant que nous avons perdu, entre autres, ce geste qu'on voyait dans l'Antiquité, on versait l'huile, carrément, on versait la fiole d'huile sur la tête, il descendait sur la barbe d'Aaron, comme dit le psaume. Donc il y avait, même physiquement, l'huile oignait tout le corps du néophyte. Eh bien, en marquant chaque baptisé du don de l'Esprit, la confirmation permet au baptisé de donner corps à ce que son baptême a fait de lui, déjà. Et cela, sur le plan missionnaire comme spirituel. J'insiste sur cette dimension spirituelle. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Un grand théologien orthodoxe, il dit, la vie chrétienne est une vie dans le Christ. Une vie dans le Christ. Eh bien, l'existence chrétienne est ainsi conformée à la double mission du Fils et de l'Esprit. À la double mission du Fils et de l'Esprit. Alors, il me semble qu'il est heureux à cet égard que la confirmation soit mise toujours en relief par rapport au baptême. On est baptisé dans l'eau et dans le Saint-Crème. Dès le départ, les pères de l'Église ont mis en valeur l'expression baptisé dans l'eau et le Saint-Crème vient du grand théologien et père de l'Église Jean Chrysostome. Et donc il y a une force particulière de ce rite, et c'est cette force particulière, nous l'avons vu ce matin, qui s'est déployée en Occident et qui a montré qu'il y avait deux sacrements. La confirmation s'est quelque part détachée du baptême. Et donc, cela nous fait dire qu'on ne peut être chrétien que sous la mouvance du Fils et de l'Esprit-Saint, ensemble. Donc, les deux sacrements manifestant cette vie trinitaire qui vient du Père, mais qui est manifestée par le baptême et la confirmation par le Fils et l'Esprit-Saint, les deux missions du Père. Je vous fais remarquer, nous l'avons déjà cité une fois ce matin, mais c'est pour que ça puisse être vraiment bien perçu. C'est bien ce qu'affirme la note numéro 1 du rituel d'initiation chrétienne des adultes. On peut la relire ensemble pour voir que cela a toute une cohérence. On parlait de cohérence ce matin. Le numéro 1, donc j'ouvre le rituel et je trouve cela, et le rituel dit « Par les sacrements de l'initiation chrétienne, les hommes délivrés de la puissance des ténèbres » Ah tiens, les exorcismes « Délivrés par la puissance des ténèbres, morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui, reçoivent l'esprit d'adoption des fils. » La finalité du baptême est bien le don de l'Esprit et célèbre avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, la dimension ecclésiale. Il célèbre avec tout le peuple de Dieu. On devient un seul peuple, on est intégré dans ce seul peuple.
Voilà, avant de finir donc notre troisième intervention. Vous avez du mérite quand même. Hein. Après, c'est votre évêque qui parle, ce sera plus important de l'écouter lui que nous. Oui, donc on parle de tension, donc quelques petits points sur la tension. J'ai mis un point d'interrogation parce que, bon, on la sent quand même, c'est pas une tension non plus très... qui nous empêche d'avancer quand même. Une petite anecdote en ce qui concerne l'exorcisme. Un jour, pour détendre un peu l'atmosphère, un jour il y a une préparation de scrutin avec un prêtre, le curé de la paroisse, et il me dit... Je vais changer les paroles des prières de scrutin, d'exorcisme, parce que vraiment c'est trop chargé, quoi. Péché, tout ça, bref. Il est en droit de le faire, puisqu'on peut adapter de manière avec une intelligence pastorale. Donc j'ai présumé qu'il avait une intelligence pastorale. Non, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. C'est qu'au moment du scrutin, donc ça se poursuit, il dit voilà. Donc il avait changé ses paroles, bien, pas très grave. Et il dit voilà, maintenant. Nous allons pratiquer l'exorcisme. C'est réel. Hein. Bon. Voilà, intelligence pastorale. Alors, donc, la tension. Non, mais vous voyez, là, ça, c'est une tension quand même, parce que plutôt que relire ensemble tout ça, on n'a pas pu faire ça avec l'équipe à l'époque. Bon, ouais. Donc, est-ce qu'il y a une tension? Alors, je vous ai mis un petit livre. Enfin, c'est un gros livre, en fait. Il y a le petit donc, rituel que vous connaissez. Il y a le. Je reviens sur le directoire pour la catéchèse. Je pense que. Désormais, déjà le rituel de l'initiation chrétienne des adultes est déjà votre livre de chevet. Il y a la Bible d'abord, bien sûr. Le deuxième, c'est le rituel. Et le troisième, c'est le directoire pour la catéchèse. Parce que le directoire pour la catéchèse donne des pistes, en fait, même si elles ne sont pas forcément évidentes au départ. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'inspiration catéchuménale de la catéchèse, mais en fait, c'est l'inspiration catéchuménale de la pastorale. Depuis 1977, on parlait de modèle catéchuménal, c'est-à-dire que le rituel dont on parle, de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, et ce que vous pratiquez de manière voilà, dans la pastorale, au niveau de l'accompagnement des adultes et des adolescents, la mise en œuvre de cette initiation chrétienne qu'on appelle le catéchuménat, est vraiment quelque chose qu'on dit que c'est vraiment toute la catéchèse au sens très large, hein, pour les jeunes, qui doit s'en inspirer. Et donc, le directoire donne cette direction-là. Et du coup, un directoire, ça veut dire, c'est une direction, c'est pas un diktat, c'est une direction. Voilà, donc je vous recommande pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais commencer par ça. C'est que l'initiation chrétienne, c'est un tissage entre la catéchèse et la liturgie. Catéchèse, vous voyez, c'est pas la catéchèse des enfants. Prendre catéchèse au sens de l'écho de la parole de Dieu, qui est son sens étymologique. On sent bien que c'est ce tissage-là qui importe. C'est-à-dire qu'en fait, on a des rites, on a la chance d'avoir un rituel. C'est la liturgie qui initie, hein. C'est pas nos paroles, c'est pas à force de... C'est l'enseignement qu'on donne, etc. Mais c'est la liturgie. Sans liturgie, on pourrait pas initier les personnes. Elles seraient pas initiées au mystère pascal. Elles sont initiées par les rites. Et les catéchistes, dit le rituel, ils prennent part active au rite, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on doit être attentif à la ritualité, à la liturgie, quand on accompagne des personnes. Ça réduit la tension quand même. Je m'excuse de donner des anecdotes, mais je pense que vous en avez plein aussi, mais une entrée en catéchuménat où on remet le livre des évangiles, l'évangéliaire à un catéchumène, bon, le curé prend le livre, il le ferme, il le donne à l'enfant de cœur qui va le donner au catéchumène, fermé à l'envers, quoi. Fermé et à l'envers. Moi, je me mets pas en avant, mais c'est pour vous dire que prendre une part active au rite. Je me suis avancé, j'ai remis l'évangile à l'endroit et je l'ai ouvert. Et en sortant, le catéchumène me dit que j'avais jamais vu la parole de si près. Donc, vous voyez, ben oui, mais prendre une part active au rite. Le rite doit avoir du sens. Ça réduit la tension. Ça réduit la tension, honnêtement, franchement. La tension entre, comment dire, la pastorale sacramentelle, nos sacrements dans le désordre, je ne sais quoi. Si on prend cette part active, c'est très important. C'est un tissage entre catéchèse et liturgie. On peut élargir ça à toute la catéchèse. Hein, la liturgie n'est pas simplement un saupoudrage à la fin de la réunion de caté. Ou alors, comme m'a dit une catéchiste un jour, « Ah, les enfants étaient tellement turbulents, Ah, on a fait le moment de prière à ce moment-là, ce n'était pas prévu, mais ça les a calmés. Ah, je lui ai dit, mais tu leur as dit pourquoi ça les a calmés? Ah non, mais... catéchèse mystagogique, ça. La liturgie nous calme. Donc c'est une liturgie comme source. Non, c'est pour détendre un peu, on est fatigué. C'est la liturgie comme source, hein, c'est la source, c'est la liturgie. Oui, c'est... Et donc, il faut travailler donc, comme le pape le demande, il faut se former à la liturgie, c'est un texte intéressant pour ça. Et voilà. Et donc, travailler en lien, alors je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en lien entre les services, enfin oui, puisque la liturgie est là d'ailleurs, hein, service de liturgie, oui, tous travailler en lien. Pour détendre tout ça, la pastorale doit être décloisonnée, quoi. Il faut tous travailler en... On n'est pas si nombreux aujourd'hui et vraiment tous travailler en lien pour aider à cette... À réduire cette tension. Donc la liturgie comme source, hein, c'est-à-dire que on peut avoir de l'imagination... pas liturgique, parce que non, faut pas, mais pastoral en tout cas, où on peut créer des sacrements, ce qu'on appelle les sacramentaux, vous savez, donc le Concile Vatican II a demandé à ce que les sacramentaux soient valorisés, une bénédiction, donc il y en a dans le rituel, un geste avec l'eau pour ceux qui cheminent vers la confirmation, enfin, pour en mémoire du baptême, ce que vous pratiquez pour un certain nombre, vous voyez, donc, c'est vraiment la liturgie comme source, que ce soit pas seulement le sommet, quoi. On va à Pâques, c'est le sommet de la liturgie, et du coup, après, il y a un catéchumène, il ne voulait plus redescendre du chœur après les Gilles Pascal. Il ne voulait plus. C'était le sommet, quoi. Il est redescendu depuis, parce que... Mais on a cette liturgie, la redécouvrir comme une source de la foi, et du coup, vraiment, on a le rituel, mais on peut très bien, avec des catéchumènes ados et adultes, avec les ados, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir... avec d'autres jeunes, hein, voilà, profiter de leur présence et puis d'avoir ce qui se fait beaucoup. Hein. Donc retrouver cette liturgie comme source pourrait permettre aussi de réduire cette tension. Le processus d'initiation chrétienne, dit le directoire pour la catéchèse, il dit que c'est une authentique introduction expérientielle à la totalité de la vie de foi. C'est une authentique, c'est expérientiel, ça introduit à la totalité de la vie de foi. C'est pour ça qu'on signe, comme on l'a dit, sur tout le corps. C'est pour ça qu'on plonge normalement. J'avais vu une image tout à l'heure de la plongée. Vous voyez, déjà, on a un problème, parce que le baptême, ça veut dire plonger, en fait. Ouais. Ben, on ne plonge pas, en fait. Mais pas toujours, je ne sais pas si... Parce que le rituel dit qu'on peut plonger la tête, au moins la tête, dans la cuve baptismale, où tout le corps, aujourd'hui, de plus en plus de piscines, on trouve dans les églises pour un baptême plongé. Parce que la cohérence, elle est là, quand même. Hein. Au moins le Alors, je vais dire ça comme ça. C'est pas pareil pour un catéchumène d'avoir au moins la tête plongée dans l'eau que de ne pas avoir la tête plongée dans l'eau. C'est pas la même expérience, je vais jusque-là, de la vie, de la foi et de la manière dont on plonge dans la mort et la résurrection du Christ. Je sais pas comment vous pratiquez ici. Plonger la tête ou pas? Une rumeur. Un jour, il y a une catéchumène qui m'a dit, parce qu'elle était très... Elle était esthéticienne, mais... Si je plonge la tête, je vais avoir, en sortant, parce qu'elle avait les cheveux, il y avait les cheveux, je vais avoir l'air d'une laitue. Donc du coup, elle avait fait, vous savez, plein de tresses, ça n'a pas bougé la chevelure. Ou un autre qui me dit, mais moi, je veux pas être plongé parce que je veux être baptisé comme Jésus. Donc l'accompagnatrice avait dit, je ne sais pas ce qu'elle avait dit, je dis, bah, Jésus l'a plongé dans le Jourdain, donc il a été baptisé en plongée, avec la tête plongée. Ce que je veux dire par là, c'est que nos réticences Ce qui est très intéressant aujourd'hui dans le baptême, quand on plonge la tête, ça fait rire l'assemblée. Ça fait rire l'assemblée. Pour moi, ça, c'est une vraie tension. Vivement le jour où l'assemblée ne rira plus quand on plonge la tête du catéchumène dans l'eau. Mais ça, c'est chez moi, c'est pas chez vous. Une authentique introduction expérientielle, c'est le niveau de l'expérience. Alors, avec les jeunes et les adultes, les enfants aussi, non, le bébé, c'est indifférent, on en a parlé. Et on a la chance de pouvoir expérimenter, faire l'expérience avec eux, parce qu'on l'a fait avec l'expérience. Il y a un livre, je l'ai mis en photo ce matin, oui. Il y a le livre de la célébration du Ricard. Vous savez, le livre, le grand livre vert, je ne sais pas si vous le connaissez. En fait, il est épuisé. S'il est épuisé, ça veut dire qu'on les a tous vendus. Mais ça veut dire aussi qu'on ne les redemande plus, en fait. Ça veut dire qu'on ne s'en sert plus, en gros. On ne s'en sert pas trop. Voilà. Et c'est dommage parce que ça donne la cohérence, un peu comme un missel, ça donne la cohérence de l'initiation. Et la beauté. Alors, Vous voyez, enfin, là, on a parlé de la beauté. Et, enfin, bref, les feuilles de déroulement, c'est quand même pas terrible, quoi. Surtout quand on les garde à la main. Ça fait pour moi partie de l'expérience de la liturgie. C'est-à-dire que le travail du liturge, et notamment des accompagnatrices et accompagnateurs, c'est de connaître par cœur le déroulement de ce qui va se passer. Surtout que c'est toujours la même chose. Quand on l'a fait une fois ou deux, on sait à peu près ce qui va se passer. Vous voyez, ça fait partie pour moi vraiment de l'expérience liturgique. Je passe. J'en profite pour... Parole catéchétique, point d'interrogation. C'est quoi une parole catéchétique? C'est ni une monition, ni une explication. Déjà, c'est un repère. C'est pas la monition qui dit, comme dans le rituel de la confirmation, maintenant l'huile, etc. C'est pas une explication, surtout pas. Donc c'est un mot, on n'explique pas les rites, on l'a toujours dit. Ce mot peut accompagner de paroles catéchétiques de type mystagogique. Ça veut dire que, vous savez, pour le renvoi, et vous le faites sûrement quand vous faites le renvoi, vous accompagnez d'une parole qui est catéchétique, c'est-à-dire qui n'est pas dire, bah, on les renvoie, j'exagère, hein, on les renvoie parce que c'est marqué dans le rituel, j'exagère. Mais on va dire on va catéchiser. Il s'agit pas d'expliquer les choses dans la foi, c'est les catéchiser. Et là, il faut s'exercer, il faut s'exercer à ces choses-là. Parce que pour la confirmation, vous savez, je l'ai dit ce matin, je le redis, la confirmation d'adulte, ou de jeunes, ce qui l'achèvement de leur initiation chrétienne, c'est l'Eucharistie qui suit. Bien. Mais si vous dites rien, bah, personne ne s'en aperçoit de ça. C'est pas inné, quoi. Et du coup, dire une parole catéchétique, c'est vraiment accompagner cette communion, la rendre peut-être aux deux espèces, enfin, lui donner un sens. Alors aujourd'hui, on remet des écharpes après la confirmation. Enfin, parfois. Dernière confirmation que j'ai vue, c'était écharpe blanche. J'ai pas bien compris. C'est rouge. Peu importe. En fait, on rajoute des signes. C'est très bien. Hein. J'ai rien contre du tout. C'est pas la question. Et puis j'ai rien à voir contre. C'est pas mon problème. Par contre, on ne dit rien, quoi. On ne dit rien. Alors on va dire oui, mais si ça doit parler tout seul. Non, 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 non. Je vous rappelle, on ne se l'est pas dit au début, tout début, on est en postmodernité, vous le savez. On est dans une société déchristianisée, donc ce n'est pas du tout quelque chose qu'on comprend d'emblée. Hein. Comprendre au sens catéchétique, hein, je dis bien toujours. Donc, accompagner de paroles catéchétiques est toujours très important, un geste. On appelle les premiers exorcismes dans les célébrations de la parole. Voilà. Et il faut s'y exercer, parce que ce n'est pas évident, les paroles de catéchèse. Voilà. Et puis, préparation, point d'interrogation. Alors, je vais vous demander quelque chose, faire un effort, de ne plus employer le mot préparation au sacrement. Non, mais je plaisante, faites ce que vous voulez. Parce qu'on ne prépare pas au sacrement. Figurez-vous, qui peut être prêt à recevoir le baptême? Qui peut être prêt à recevoir la confirmation? On reçoit un don, le don de Dieu, le don d'amour de Dieu, l'amour surabondant de Dieu. Comment voulez-vous être prêt à une chose pareille? On y est initié, on va essayer de vivre avec ça toute la vie, mais on est initié, on ne prépare pas. Parce que si vous savez, oui, mais alors, on va faire le baptême et l'Eucharistie, parce que quand même, on ne sépare pas les deux, quoique sachez quand même que dans certains diocèses, on sépare même le baptême de l'Eucharistie pour les adultes, genre baptême à vigile pascale, confirmation à la vigile de Pentecôte, et Eucharistie le jour de Pentecôte. N'écoutez pas, il ne faut pas faire ça. Vous voyez, on a tous les systèmes en France. On a tout, on essaye tout. Pour garder l'ordre, on va différer, enfin, etc. Bref, oui, donc, on entend parfois, on fait baptême Eucharistie parce qu'il n'est pas prêt pour la confirmation. Ou elle n'est pas prête. Mais vous voyez, soit on est initié par les sacrements, on est initié au mystère pascal, mais ce n'est pas question d'être prêt ou pas prête. D'autant plus que si on reçoit le baptême, on vient de le voir, hein, la confirmation et l'achèvement du baptême. Pas question d'être prêt ou pas d'être prêt. Donc, on a ces. Alors, qu'on fasse autrement ou qu'on diffère, bien sûr, dans les années 70-80, on différait d'un an ou deux ans la confirmation. Hein. Donc, déjà, ça s'est rapproché à Pentecôte. Mais, voilà. Mais ça, ce n'est pas vraiment. Le mot préparation n'est pas un mot adéquat. Je pense que réduire la tension entre la pastorale et la théologie. Voilà. Si on ne parle plus vraiment de préparation, déjà on fait un petit pas, quoi. C'est pas la question. On initie. On fait pas une préparation. On prépare pour le baptême. On initie au mystère pascal. Voilà. On est ça comme initiation. Pour la confirmation également, on va dire que on la diffère, et donc du coup, tous les baptisés adultes dans le diocèse seront ensemble, etc. Et donc on aura même ceux qui ont été baptisés adultes, baptisés Eucharistie à Pâques, et ils seront tous ensemble pour la confirmation. En fait, oui, mais ils peuvent être là en étant confirmés à Pâques. Et là, ça demande un peu d'imagination pastorale, c'est-à-dire que le jour de la confirmation, on invite ces personnes, ça peut être une étape de, pour le coup, pas une finale, mais un temps, après le temps pascal, quel temps de la mystagogie, hein, la mystagogie, c'est le temps pascal, à la fin de ce temps pascal, on les invite pour accompagner les confirmés adultes, les confirmants adultes, les autres, et on peut aussi faire un geste avec eux, vous voyez, c'est des choses qui peuvent devenir tout à fait naturelles, c'est pas un problème ça, hein, c'est pas... La confirmation n'est pas forcément, comment dire, un sacrement qui doit, entre guillemets, on instrumentalise beaucoup ce sacrement. C'est l'engagement, c'est le don de l'Esprit-Saint. Il faut revenir aux fondamentaux. Et du coup, c'est pas préparé, c'est initié, en fait. Initié. Et enfin, les itinéraires de type catéchuménal, qui sont depuis le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, qui date de 2006, je ne sais pas si certains le connaissent quand même ce texte, c'est de dire en fait que pour chaque sacrement, et notamment la première communion, la confirmation, c'est construire des itinéraires de type catéchuménal avec la mise en œuvre de sacramentaux. On a parlé de la mémoire du baptême. Hein. Donc réfléchir en ces termes-là, ça veut dire qu'on réduit la tension parce qu'on met en perspective chaque sacrement d'initiation auquel on initie, qui est célébré, les accompagnatrices et accompagnateurs vont mettre en perspective les deux autres, toujours. Voilà. Alors, je le dis tranquillement, même si... les homélies de confirmation, notamment, les homélies sont extrêmement importantes. Il y a un théologien que cite souvent le pape, qui s'appelle Romano Guardini, qui a écrit un article dans les années même 40, 60, qui a écrit un article qui s'appelle « La prédication mystagogique ». Ça veut dire que c'est un ensemble. Et là, il y a effectivement une manière de mettre en perspective. C'est ça ce qu'on appelle le type catéchuménal. C'est un type d'initiation, en fait. Donc, itinéraire de type catéchuménal. La prédication est très, très importante dans ces itinéraires. Et puis, les paroles catéchétiques, des accompagnatrices et accompagnateurs qui vont accompagner les gestes. Quand on fait faire aux étudiants, nous, aux étudiantes, des itinéraires de type catéchuménal vers, par exemple, la première communion, la confirmation, etc., c'est étape liturgique, donc c'est le rituel, mais c'est surtout cette manière, on en a parlé, hein, cette action mystagogique à mettre en œuvre. Ce qui peut réduire cette tension, c'est l'action mystagogique. Après, pastoralement, on fait comme ça parce que, voilà, c'est plus vraiment un problème. Enfin, ça reste un peu un problème, mais... Le problème, on se détend quand même. On peut se détendre parce qu'on a les moyens de le faire, mais ça demande un peu de travail quand même, de travail mystagogique, mais surtout pour l'accompagnement et catéchétique. Voilà, je finis simplement. Le directoire pour la catéchèse dit que le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, écoutez bien, est la forme accomplie de la doctrine, qui non seulement se réalise dans l'Église, mais la constitue. Se réalise dans l'Église, mais constitue l'Église. De tout temps, l'initiation chrétienne a constitué l'Église. Imaginez qu'il n'y ait plus de demande de baptême dans l'Église. L'Église ne pourrait plus être constituée. Donc c'est là qu'on est, c'est dans ce lieu-là qu'on est. Forme accomplie de la doctrine, parce qu'il ne s'agit pas de dire la doctrine, c'est l'alternance des périodes et des étapes liturgiques qui est doctrinaire, voyez. Ce n'est pas ce qu'on raconte, bien sûr qu'on va catéchiser quand il y a de l'enseignement, mais c'est dans cette forme-là que la doctrine s'accomplit, en fait. Hein, et donc, vous voyez, ça c'est juste pour vous mettre la pression, en fait. C'est juste pour vous mettre la pression, parce que c'est extrêmement important, le travail que vous faites, que nous faisons auprès des catéchumènes, extrêmement important, et c'est quand même... alors, il y a beaucoup de demandes aujourd'hui, on dit que ça explose, mais c'est réellement, alors... Non pas l'avenir de l'Église, le présent de l'Église qui se joue, de la manière dont on initie ces personnes est Pour l'incorporation des néophytes, ben nous verrons cela la prochaine fois que vous nous inviterez. Merci beaucoup.